RFI, grand reportage, Xavier Besson.
La Tunisie ne compte aujourd'hui plus qu'environ 1250 juifs. C'est 100 fois moins qu'au moment de l'indépendance en 1956. Aujourd'hui, deux communautés survivent dans l'est du pays, sur l'île de Djerba et dans la ville de Zarzis. À elles deux, elles réunissent 900 membres et continuent d'exister dans la ferveur religieuse, malgré un contexte sécuritaire compliqué, puisque l'on n'est pas loin de la Libye. Ailleurs dans le pays, toutes les communautés juives ont disparu, sauf à Tunis et à Sfax, où quelques familles sont encore présentes. Alors comment vivent désormais les juifs tunisiens à l'heure où la menace terroriste grandit dans la région? Nous partons à leur rencontre avec ce grand reportage de Camille La France.
La Hara Kbira sur l'île de Djerba abrite une dizaine de synagogues, sept cimetières juifs et une communauté bien vivante. Les touristes s'aventurent rarement dans ce quartier populaire, mais des Tunisiens musulmans y habitent ou viennent y déguster ses briques, spécialité frites, dans des rues où adultes et enfants se promènent en kippa. Simon Sagroun y est médecin.
Il y a tous les jours des personnes qui viennent visiter leurs morts. Il n'y a pas ici des cimetières mixtes. Même les musulmans refusent d'enterrer les juifs dans les cimetières musulmans. Mais la présence juive à l'île de Djerba date à l'époque berbère, avant même Jésus-Christ.
Depuis sa jeunesse, le docteur prie au moins tous les samedis pour Shabbat, le jour chômé sacré.
Allez, alors là, c'est la synagogue Ravi Haskia Perez. C'est une synagogue qui a presque deux siècles, qui célèbre les offices les samedis, pas les jours de semaine. Il faut dire aussi que quelques habitants ont quitté Djerba. Donc, ce qui fait que la synagogue a un peu perdu de ses fidèles. Puis la révolution, quelques familles, 5-6, sont parties, mais encore pas pour des raisons vraiment de sécurité, c'est surtout pour trouver du travail. Mais la majorité écrasante est restée, elle continue de vivre tranquillement, ils construisent, et c'est stable, ils n'ont aucune intention de quitter. On lit cette prière-là. Réponons chez l'Olam, mais l'école, Michalot, Libino, Litova, Vitinchi, Latino, Isaqueno.
De nombreux juifs sont partis pour l'Europe ou Israël au gré des événements du Proche-Orient. La communauté compterait aujourd'hui à peine plus de 800 membres contre des dizaines de milliers par le passé. Un dispositif sécuritaire est constamment déployé pour cette minorité. Policiers en uniforme et en civil, caméras de surveillance. Au moment du pèlerinage de la Griba pour la Pâque dans le quartier voisin de Harasrira, des hélicoptères viennent chaque année appuyer les militaires et brigades antiterroristes. Des mesures prises après l'attentat qui a visé sa synagogue et fait 19 morts en 2002, elles n'ont cessé depuis d'être renforcées. Mais la communauté fait tout pour survivre et préserver sa relative quiétude, mais aussi sa culture. Mazouz et Raphaël, 15 ans, apprennent à chanter les musiques traditionnelles.
Nous sommes un groupe de jeunes. Il fallait un groupe pour chanter durant les cérémonies. Il n'y en a pas d'autre ici. C'est pour perpétuer les traditions qu'elles ne s'oublient pas. On aime chanter et c'est un devoir.
Autre signe de sa vitalité, la communauté compte 4 écoles israélites. Filles et garçons y sont séparés, mais tous peuvent suivre en parallèle l'enseignement public jusqu'au bac. Emmanuela, 23 ans, y a fait ses classes avant de devenir à son tour institutrice au programme L'hébreu moderne, entrecoupé de cours religieux. Le quotidien pour elle est assez répétitif, elle s'évade en suivant des cours de droit par correspondance.
Il n'y a pas la vérité des activités. Soit on donne des cours à l'école, soit sortir au souk. Les restaurants et les cafés, non, c'est pas possible. Le rabbin nous interdit de faire ça. Non. Bien sûr, quand on est en fille, les garçons font ce qu'ils veulent. Pour les filles, on peut y aller, mais avec la famille. Mais ce n'est pas un défi, un groupe des amis, allez, on choisit d'aller au café, on va rester ici pour discuter. Non, ce n'est pas possible du tout. Parfois, on s'ennuie, c'est-à-dire tu pars au souk et après. Toujours le gouvernement d'Israël nous appelle, allez, venez, qu'est-ce que vous faites ici? On entend ça dans les nouvelles d'Israël, surtout lorsqu'il y a quelque chose à Tunis, attentat ou quelque chose, on entend beaucoup ça. Donc on vit bien ici, la vérité, on n'a pas des difficultés et tout, mais on espère bien sûr aller à Israël.
Comment ça se passe la cohabitation avec les musulmans?
Des bonnes relations, ils sont voisins avec nous, parfois on se discute, des relations limitées, on se respecte. Et c'est tout.
Respect, tolérance reviennent dans toutes les bouches, mais la vitrine de la coexistence pacifique a été émaillée à plusieurs reprises. Yehuda Pshiri en témoigne. En 1978, son magasin du quartier mixte de Houm Souk, plus au nord, a été brûlé à cause, dit-il, des tensions israélo-palestiniennes.
De temps en temps, on m'en parlait des Palestiniens, etc. Je lui dis, mais écoutez ça, c'est un disque rayé. Arrêtez de redire tout ce problème des palestino-israélo. Ça n'a rien à voir. Israël, c'est Israël, et la Tunisie, le juif de Tunisien, djerbien, etc. C'est djerbien, il n'y a rien à dire. Ma patrie, c'est la Tunisie. J'espère, moi, je le souhaiterais, qu'il n'y aura pas une autre bavure, moi. De toute façon, elle est bien sécurisée, là. Hein. Depuis quelques années, mais de pire en pire. Ça veut dire que maintenant, on commence à sentir le danger. Et après la révolution, il y a un changement. De toute façon, on vit avec. J'ai peur de ça. Vraiment, j'ai peur pour mes enfants, pour la communauté, pour tout le monde. Ici. Mais de toute façon... Ici, c'est ma patrie. Quoi qu'il y va arrive. D'ailleurs, même pour toute la communauté maintenant, ils ont bien compris que aller en France ou aller en Israël ou aller n'importe où, c'est pas la bonne solution. Je suis là. Et c'est ma patrie, c'est tout, point barre.
Un nouvel incident est venu réveiller ses craintes l'an dernier. Son frère Maurice a reçu 3 coups de couteau en pleine rue et a failli y laisser la vie. Yehuda soupçonne un acte antisémite. Cela ne l'empêche pas de couler un quotidien tranquille entre sa boutique, les cafés et les jeux de domino, aux côtés de Tunisiens musulmans qu'il appelle ses demi-frères, comme l'autre fille.
Vous voyez, des musulmans, des juifs, surtout on habite même dans les mêmes quartiers où on travaille, un ouvrier ou un patron, toujours vous trouvez un juif musulman ou le contraire. On est, comme on dit, des frères. Il n'y a pas une différence entre juifs ou musulmans.
Aujourd'hui, rares sont les expressions d'un malaise, mais en 2014, un mouvement de protestation a rappelé l'île aux craintes de la communauté. Des commerçants juifs ont mené une grève de 2 jours pour dénoncer les agressions dont ils étaient victimes de la part, je cite, d'extrémistes musulmans. À 3 quarts d'heure de route plus au sud, la ville de Zarzis accueille une autre communauté juive. Elle compte environ 90 membres, une vingtaine de familles regroupées dans un seul quartier, à seulement 80 km de la Libye. Une plaque en hébreu orne sa synagogue. À l'intérieur, des faïences colorées rivalisent avec des vitraux et des bois sculptés. Incendiée en 1983, quelques mois après le massacre de Sabra et Shatila au Liban, elle a été entièrement reconstruite par la communauté en 1999. Elle possède également sa propre salle des fêtes. Un olivier peint en blanc trône dans la cour qui mène aux cuisines. Là, des femmes préparent le repas du Shabbat. Des hommes apportent des vivres. L'un d'eux confie son inquiétude.
Tout ce qu'on voit dans les télés, on le vit, c'est terrible. Ben, c'est très proche d'ici, oui. C'est surtout le juif, on des craintes. C'est effrayant. Hein. Ouais. Ben, jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Non, s'il y a une chose, elle viendra de la Libye ou d'autres pays, c'est pas de Tunisie. Parce qu'ici, on vit ensemble et il n'y a pas de problème avec les Arabes ici. Parce que nous, on dit les Arabes, mais les musulmans. Avec les musulmans d'ici, de Tunis, il n'y a pas de problème.
Au dire des habitants, des policiers discrets patrouillent aussi dans le quartier. La petite communauté ne possède pas de boutique cachère. La viande est achetée à Djerba. C'est de l'île voisine qu'est aussi venu Ben Sion Diaye, 27 ans, pour enseigner la Torah aux enfants.
On ne peut pas laisser nos enfants sans cours sur la Torah. C'est obligatoire. Depuis 15 ou 20 ans, il n'y a plus de bons professeurs ici. C'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de juifs. Je voudrais former les enfants pour offrir un bon rabbin à Zarzis.
Ben Sillon a étudié l'hébreu dans une université israélienne pendant 2 ans. Désormais, durant son temps libre, il recopie patiemment des Torahs à la plume sur des pages de cuir blanc. Dans sa chambre, sur un coussin en forme de cœur, est imprimée une photo de sa fiancée, lui, à 1 mètre de distance. Il a eu un coup de cœur pour cette jeune femme de bonne famille à qui il n'a encore jamais adressé la parole et dont il rêve en attendant leur mariage prévu l'an prochain. La troisième communauté juive de Tunisie se trouve entre la capitale et ses banlieues de la Goulette et la Marsa. Deuxième du pays en taille, elle compterait un peu plus de 200 personnes, mais beaucoup plus discrète et dispersée que celle de Djerba et Zarzis. Seule la grande synagogue de Tunis s'impose avec une immense étoile de David sur l'une des artères principales, l'avenue de la Liberté, sous la protection permanente des forces de l'ordre. Un peu plus loin, rien ne distingue l'école Lubavitch, créée en 1960, mis à part les guérites de policiers à sa porte. Le rabbin Batou Hattab en est le directeur.
La vérité, lorsque j'ai rentré dans cette école en 1989, il y avait presque 350-400 élèves. Et c'était 2 écoles, une pour filles et une pour garçons. Maintenant qu'il n'y a pas beaucoup de gens, alors nous avons seulement cette école. Nous avons maintenant presque 40 élèves de CP jusqu'au bac. L'émigration des Tunis vers l'Europe, c'est avec leur plaisir, c'est-à-dire pas sous force majeure ou quelque chose comme ça. Ils envoient leurs enfants pour terminer les études. Après, les enfants, ils font une petite fortune, ils appellent les parents. Alors, les parents, ils vont auprès de leurs enfants. Après la révolution, il y a des gens qui ont eu peur. Mais la vérité, il n'a rien arrivé. La synagogue fonctionne, le boucher caché fonctionne. Il manque 5000 juifs à Tunis. Et avec 5000 juifs, on peut faire des milliers de choses. Parce que je me rappelle de Tunis en 1975-78, lorsqu'il y avait beaucoup de juifs, le commerce il marche très bien, les gens joyeux, il y avait beaucoup de mouvements, il y avait beaucoup de choses, la vérité.
Comme beaucoup, le rabbin n'aime pas trop parler de ses craintes, mais il garde les yeux rivés sur les écrans de ses caméras de surveillance et préfère la casquette à la kippa dans la rue, car les gens n'y sont pas habitués, explique-t-il. Il a perdu un fils, Yoav, dans l'attaque de l'hypermarché Kacher de la porte de Vincennes en janvier dernier. Une cérémonie lui avait rendu hommage devant la synagogue, sous haute protection policière. Georges Tibi est, lui, administrateur chargé du secrétariat général de la communauté.
Il est évident que nous sommes au cœur d'une actualité qui n'est pas toujours très agréable. Mais ce pays vaut la peine d'être vécu et je me trouve tout à fait parfaitement bien là où je suis. Je ne vois pas du tout pourquoi avoir peur. Je suis tunisien, ma religion ne concerne que moi. Et si je mets les religions et civiles, là j'aurai certainement des problèmes. La vie n'est pas fluide parce qu'il ne s'agit pas de facteurs stricto sensu tunisiens. Vous avez des tas de choses qui viennent par l'extérieur et qui font bouillir la marmite. Et le Proche-Orient n'est pas fait pour arranger les choses. Je ne dis pas que c'est le paradis, mais je ne vous dis pas que c'est l'enfer. Je vous dis qu'il fait bon vivre.
Créée après la Révolution, l'association tunisienne de soutien des minorités a recensé depuis 2011 plusieurs menaces contre les communautés juives. Prêches violents dans des mosquées, détérioration d'écoles et synagogues, jusqu'à la publication de calendriers mettant en exergue des citations d'Hitler. Selon sa présidente, Yamina Tabet, après l'attentat de Sousse qui a fait 39 morts en juin dernier, des messages sur les réseaux sociaux appelaient même ouvertement à attaquer les Tunisiens juifs.
Concernant les questions antisémites, il y a un laisser-faire, étant donné qu'il n'y a pas une réelle reconnaissance du problème. Rediba reste quand même un symbole de coexistence, un pèlerinage juif à Djerba, dans un pays à majorité musulmane, c'est important, certes, mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, une image un peu trop idéale par rapport à une réalité qui est assez sombre, et je pèse mes mots, assez sombre par rapport à l'antisémitisme en Tunisie.
Autre lieu lié à la communauté, son imposant cimetière d'une 15 hectares. Le long d'une route très fréquentée dans un quartier d'affaires, il jouxte le cimetière chrétien. Joseph Krief s'est donné pour mission de recenser ses tombes. Elles seraient 25 000.
Là, vous avez une tombe qui est très belle, décédée de 1907, Emma Bokobza, qui est décédée à l'âge de 22 ans. Et l'épitaphe qu'elle aurait écrite elle-même. Si mon lit nuptial en poussière est changé, si des cailloux remplacent les fleurs d'oranger, sur mon front alourdi, sur mon œil qui sommeille, ne pleurez pas parents, ne pleurez pas amis, l'avenir dans la vie est souvent compromis, ici le rêve est doux et la paix éternelle. Mais je pense qu'il n'est plus très doux, le rêve.
La plupart des dalles du cimetière sont sans dessus dessous, on pourrait croire qu'un tremblement de terre a ravagé les lieux. Le délaissement est visible et déconcertant. Parmi ses causes, les nombreux départs et le manque d'entretien.
C'est assez meuble comme terrain. Donc le poids très lourd de ces marbres a fait qu'avec les années, la terre s'est effondrée. Donc le caveau s'est retourné, cassé, explosé. Il y a beaucoup d'autres cas aussi qui sont, eux, soit du vol de marbre et du vandalisme pour essayer de trouver des corps et récupérer des bijoux et des valeurs qui n'y sont absolument pas. Je ne pense pas que ce soit à la base antisémite. Il est possible. L'antisémitisme existe dans le monde. Simplement, c'est vrai qu'il y avait des traditions juives qui se passaient dans la rue et qui étaient tout à fait respectées de tout le monde. Que peut-être aujourd'hui, si ça se passait aujourd'hui, il risquerait d'y avoir des problèmes. Sauf sécurité énorme. Comme le cadre du pèlerinage de Rabbi Haï Taïeb à Tunis, au cimetière ici. C'est un débordement de sécurité, comme à Djerba pour le pèlerinage de la Griba. Malheureusement, on vit dans une période de terrorisme. Je ne pense pas que ce soit l'État islamique qui va faire disparaître la communauté juive de Tunisie. Elle va disparaître d'elle-même. Où est passée la communauté juive de Tunis ? Eh bien, elle est là autour de nous, dans les tombes. C'est ça, la communauté juive.
Les Juifs de Tunisie, une survie sous surveillance. Un reportage de Camille Lafrance, réalisation Souhail Redir.
Camille Lafrance, bonjour.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
On le comprend en écoutant votre reportage. Les Juifs de Tunisie ne vivent plus que dans deux zones à l'est et de manière dispersée à Tunis. Comment expliquer cette diminution de la population juive qui était pourtant installée depuis bien longtemps dans le pays ?
Oui, installée selon plusieurs chercheurs depuis au moins 2000 ans à l'époque romaine. Des berbères auraient notamment été judéisés et la communauté dans son ensemble aurait atteint 120 000 membres dans les années 50, soit 100 fois plus qu'aujourd'hui, 3% de la population totale de l'époque, mais leur poids économique et culturel était très important. On peut noter plusieurs causes de départ. Les premiers auraient eu lieu après la Seconde Guerre mondiale avec la création d'Israël, mais tout s'est fait de manière graduelle, beaucoup également à l'indépendance en 1956, puis au gré des événements israélo-palestiniens, comme par exemple la guerre des Six Jours en 67, qui a eu des répercussions notables, puisque la synagogue de Tunis a été brûlée, des juifs agressés, et ça a été un important traumatisme. Il y a eu donc des départs pour des raisons sécuritaires, politiques, mais aussi beaucoup de migration économique. Les enfants partent étudier à l'étranger et les parents finissent par les suivre. Il faut savoir que la disparition des juifs n'est pas spécifique à la Tunisie. Ses voisins, l'Algérie et la Libye, n'en comptent presque plus.
En tout cas, le résultat est là. Les autres villes ont perdu leur communauté juive, sauf de rares îlots familiaux à Sfax. À Djerba et Zarzis, on lutte pour exister encore, tandis qu'à Tunis, la communauté s'est réduite comme peau de chagrin.
Oui, à l'Est, la communauté met en avant sa religion, c'est son lien, elle est très orthodoxe. La vitalité s'exprime notamment par le mariage. Quand j'étais sur place, on y célébrait une union entre une djerbienne et un zarzicien. À Tunis, au contraire, les juifs sont dispersés et ne sont pas tous pratiquants, mais la plupart sont très attachés à leur tradition. J'ai pu d'ailleurs aller déguster un repas du Shabbat un vendredi soir dans une famille qui n'hésitait pas à allumer la lumière et la clim, ce qui est pourtant censé être interdit. Mais à Tunis, seule la grande synagogue officie tous les jours. Il n'y en a plus qu'une seule autre, mais ouverte seulement le samedi. Avant, il y en avait une dizaine. À la Marsa, banlieue nord, la synagogue n'ouvre que rarement l'été. Et à la Goulette, j'ai pu suivre un office du Shabbat avec pas plus de 30 fidèles, dont des étrangers de passage. Beaucoup de Tunisois expliquent que la communauté juive de Tunis aujourd'hui existe de par les Djerbiens qui ont migré, mais ils restent très discrets.
Que font les autorités tunisiennes pour rassurer justement et surtout protéger les communautés juives ?
Il y a d'abord le déploiement sécuritaire permanent. Il y a eu aussi du progrès dans la constitution de 2014, la liberté de conscience et la protection des minorités qui y sont affirmées. Le ministère des Affaires religieuses donne quelques subventions. Sa chargée de communication reconnaît des menaces contre les juifs, mais pas d'agression, et assure que le ministère change tous les imams qui tiennent des discours d'exclusion. Mais il y a aussi un problème d'éducation. L'histoire juive de Tunisie et de la région n'est pas mentionnée dans les manuels scolaires. En tout cas, c'est un des rares pays de la région où la question n'est pas taboue, dans le cercle restreint des chercheurs, tout du moins.
Camille Lafrance, merci d'avoir participé à notre émission. Votre grand reportage sur les Juifs de Tunisie, on peut le retrouver en intégralité sur notre site internet sur RFI.fr.
Carrefour de l'Europe.